Habemus Papam.
Grégoire Ier, Saint Grégoire, aussi appelé Grégoire le Grand, fut élu pape en 590. Il est encore, 15 siècles plus tard, l'une des plus grandes figures de l'histoire de l'Église, comme le rappelait Benoît XVI dans une homélie de mai dernier.
Il reste encore aujourd'hui un modèle qui fait l'admiration par sa personnalité, son exemple et la profondeur de son enseignement. Grégoire fut vraiment un grand pape et un grand docteur de l'Église.
Lorsque Grégoire est élu, à la fin du VIe siècle, Rome connaît une période extrêmement difficile. Son prédécesseur est mort de la peste, le Tibre étant cru et certains croient la fin du monde proche. Il propose alors un grand pèlerinage dans Rome. L'historien Henri Prabis nous en fait le récit.
Il va inviter les fidèles de la cité à fléchir la colère divine par un grand acte de pénitence. Et il va monter à l'ambon de la basilique de Saint-Jean de Latran et il leur dit « Frères bien-aimés, la mort frappe à coups redoublés. Nous, à qui elle laisse encore le temps de pleurer, livrons-nous à la pénitence. » Et puis alors, il va tracer l'ordre et la manière dont devait se faire la solennelle supplication. Et alors, il avait bien organisé toutes les régions. On a appelé ça par la suite la litanie septiforme. Hein. Et alors, à cette procession, on a rattaché le fait de l'apparition d'un ange au-dessus du mausolée d'Adrien. Et cet ange remettait une épée dans le fourreau et l'acte fut interprété comme l'indication de la cessation de la peste. Alors, ce détail a été consigné dans les récits du Xe siècle et depuis cette époque, on plaça un ange au-dessus du mausolée qui reçut le nom de Château Saint-Ange.
De fait, pendant l'ensemble de son règne, Grégoire Ier va intervenir sur de nombreux fronts. Il va notamment défendre une Europe naissante. Nous écoutons l'historien Philippe Levillain, auteur d'un dictionnaire historique de la papauté.
Dans un moment où l'Empire s'est trouvé affronté d'abord aux Goths, puis ensuite aux Lombards, il a montré que l'évêque de Rome et surtout l'Église de Rome étaient capables d'une résistance, une affirmation très très singulière.
Ainsi, Grégoire assume un rôle de pasteur pour ses brebis, de chef pour l'Occident, comme l'explique Henri Prabis.
Il y a un Occident qui est en train de naître à ce moment-là. Et lui dit, il faut le guider, il faut l'aider. Les grandes invasions sont là, les barbares sont partout. Et il se dit, il faut un pédagogue pour ce jeune Occident. L'Italie en particulier était complètement privée de chef. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'empire romain en Occident. L'Église était démoralisée à la fin du VIe siècle. Et vraiment, le gouvernement de l'Église avait été rendu très difficile par les hérésies des deux siècles précédents qui désolaient encore l'Orient. Donc il y avait à la fois un schisme dans l'Italie du Nord, en Afrique, les Donatistes qui relevaient de nouveau la tête contre les catholiques, les barbares qui dominaient en Gaule, les Lombards qui étaient menaçants en Italie, un clergé démoralisé et en plus une bureaucratie tracassière de Constantinople. Le patriarche de Constantinople s'était proclamé évêque universel. Il est là pour rappeler la suprématie du pape. Il veut garder cette unité qui était menacée constamment.
Mais parallèlement, Grégoire va aussi réformer l'Église. Tout d'abord dans le rapport entre Rome et les diocèses. Philippe Levillain.
Ses écrits, son action, son sens extraordinaire de l'administration qui était lié à sa formation familiale, l'a aidé à définir les modalités de ce qu'on appellerait aujourd'hui une inculturation du catholicisme romain dans un dialogue avec les diocèses. Il y a chez Grégoire le Grand, je dirais, la préfiguration de ce qu'on appelle aujourd'hui une catéchèse, une certaine modernité dans la relation très étroite qui l'organise avec les diocèses qui relèvent de l'Église de Rome. D'ailleurs, on finira par l'appeler le consul de Dieu.
Grégoire va aussi changer l'organisation de la messe.
Il aurait fait de grandes réformes, notamment une réforme très importante du canon de la messe qui va durer pendant 10 siècles. C'est-à-dire la partie, ce qui est le relais entre l'homélie, qui aujourd'hui a pris une très grande importance, et les paroles de la consécration. Tout ce qui est, je dirais, l'organisation même de la montée sous forme de la prière vers la consécration. Donc jusqu'au XVIe siècle, le canon de la messe était le canon selon Grégoire le Grand. Il a été simplifié ensuite et par le Concile de Trente et d'autre part maintenant par Vatican II.
Et ce pape va aussi protéger les moines et les missionnaires, comme le souligne Henri Prabis.
Il était d'une grande famille, hein. Il avait abandonné tous ses biens et sur le mont Caelius, il avait créé le monastère de Saint-André où il y avait les bénédictins. Et donc, il va protéger les moines. C'est le premier pape, par exemple, qui sauvegardait les droits des moines vis-à-vis des évêques. Il va envoyer Augustin et 40 moines évangéliser l'Angleterre, vous voyez, en 596. Vraiment, on peut dire aussi que c'est un protecteur des moines et des missionnaires. Il sent bien que le renouveau de l'Église passe par ces moines bénédictins. Il veut les protéger des évêques.
Et il pousse ces derniers à prêcher.
Il leur dit, il faut prêcher, c'est obligatoire. Et lui-même va donner l'exemple. On a beaucoup d'homélies de Saint-Grégoire. En particulier 40 sur les évangiles. Il va montrer l'exemple.
En juin dernier, Benoît XVI a d'ailleurs rendu hommage à ce que Grégoire le Grand a laissé dans ses homélies et ses commentaires de livres bibliques. Nous l'écoutons.
Il nous appelle à nous approcher de la parole de Dieu avec humilité, n'y recherchant pas d'abord des connaissances théoriques, mais une nourriture quotidienne pour l'âme. Son commentaire de l'évangile met en relief le fait que tous les baptisés, et non seulement le ministre de Dieu, doivent imiter le Christ portant à tous l'annonce du salut. La compréhension de la Bible n'est rien si elle ne conduit pas à l'action. La vie morale consiste à réaliser une intégration harmonieuse entre la parole et l'action, la réflexion et l'engagement, la prière et l'accomplissement de son devoir d'État.
Grégoire lui-même met en œuvre ses principes. Philippe le Vilain.
On a fait un homme de charité, celui qui a le plus expliqué que la vie religieuse était une intensité intérieure très importante et que devait se manifester par l'exercice de la charité. Il a d'ailleurs écrit un manuel qui s'appelle « Le pastoral », en fait, qui est un livre de les règles pastorales qui doivent être opérées par le clergé, et notamment le modèle épiscopal. Un modèle de patriarche byzantin d'Occident. Il nourrissait, dit-on, enfin il entretenait, si vous préférez, en tout cas il assurait l'alimentation, la nourriture, le pain quotidien, c'est mieux, d'environ 3000 personnes à Rome tous les jours. Le pape en fait un système, et surtout ça devient vraiment un exemple de la figure de la charité pontificale.
Réputé pour son humilité, Grégoire le Grand va s'attribuer le titre de serviteur des serviteurs de Dieu. Titre que reprendront nombre de ses successeurs sur le trône de Saint-Pierre. Les historiens Henri Prabis et Philippe le Vilain nous parlaient de Grégoire le Grand, qui fut élu pape en 590.
Et Spiritum Sanctum Tuum.